13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Comme chaque jour, je suis très heureux de vous retrouver pendant une heure à la veille de ce beau week-end qui s'annonce de l'Ascension et toujours en compagnie de ma chère camarade Ambline. Comment
bonjour.
Allez-vous ma chère?
Ça va bien, bonjour à tous.
Bonjour. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 ne cesse de s'intéresser à votre vécu. De la liaison éphémère aux amours clandestines entretenues pendant plusieurs années, les relations extra-conjugales constituent un jeu dangereux dans une société où fidélité et exclusivité amoureuse font figure de normes. L'adultère est associé au mensonge, à la trahison ou à la lâcheté. Et si certains cèdent à la tentation pour le plaisir de la chair, il arrive que le cœur s'en mêle et pour les amants illégitimes comme pour les partenaires officiels, l'aventure devient source de désillusion et de grande souffrance. Alors, la relation extra-conjugale signe-t-elle la fin du couple officiel? Quelle est sa place? Que signifie-t-elle? Adultère, est-ce une liaison dangereuse? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute comme chaque jour au standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute. Je vous rappelle aussi que, en plus de vous écouter, on vous lit avec grand plaisir sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission qui est pour vous, hein, sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Émilie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous?
36 ans.
36 ans. Alors Émilie, vous, il y a 10 ans, vous avez entamé une liaison avec un homme déjà engagé dans une relation exclusive.
Oui.
D'abord, dans quelles conditions avez-vous rencontré cet homme?
Par une amie, en fait. Et en fait, à cette époque-là, moi, je vivais à Londres, donc voilà, j'avais pas besoin d'attache particulière. Et voilà, au début, on va dire que ça me convenait. Et puis, les sentiments s'en sont mêlés au fil des mois.
Vous parlez tout de même d'un véritable coup de foudre. Donc, est-ce qu'il est venu vraiment, comme on a déjà fait une émission sur le coup de foudre, vous avez senti quelque chose dès que vous avez vu cet homme?
Alors déjà, on a eu un coup de foudre amical dans un premier temps, puisque bon, on parlait surtout à distance au départ.
Hein. Oui.
Et après, lorsqu'on s'est vu, oui, ça a été un vrai coup de foudre immédiat.
Mmh. Comment est-ce que vous viviez le fait de fréquenter un homme déjà en couple? Vous dites que c'était vraiment que cela allait à l'encontre de vos principes.
Totalement, en fait. Moi, je me suis toujours interdit ce genre de relations extra-conjugales. J'ai toujours dit que c'était quelque chose dans lequel je ne souhaitais pas me retrouver, mais c'est vrai que j'ai été un peu emportée dans les sentiments, dans la passion. Voilà, donc ça a été très difficile à gérer.
Comment s'organisaient vos rendez-vous alors? C'était sûrement compliqué, non?
Très compliqué. À l'époque, puisqu'il y a eu deux périodes. Il y a eu la période il y a 10 ans, et puis après on a repris un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était surtout le soir, en semaine, après le travail, ou sinon le week-end.
D'accord. Après quelques temps donc passé avec cet homme, dont vous êtes tombée amoureuse et il était lui-même amoureux de vous, la conjointe officielle de cet homme a découvert votre liaison. Vous avez alors tout fait pour qu'il ne se sépare pas. Qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là pour justement éviter que bien cet homme et sa partenaire officielle ne se séparent pas?
Très clairement, je me suis mise en retrait dans un premier temps. Et puis, j'avais prévu un week-end pour la Saint-Valentin, mais du coup, je lui ai laissé le week-end pour qu'il puisse en profiter avec sa conjointe. Mais c'est vraiment me mettre en retrait et refuser de prendre part, de devenir du coup l'officiel, mais en... Je veux dire, je voulais pas construire mon bonheur sur le malheur de cette personne. En fait.
Vous avez eu tout de même une attitude assez remarquable parce que cette compagne officielle n'avait pas encore d'enfant avec cet homme. Hein.
Non, pas encore, mais ils étaient déjà dans un process puisque du coup, ils effectuaient une FIV, donc du coup, ils étaient déjà dans un process.
D'accord.
En ce sens.
Alors, votre liaison a tout de même continué puisque vous parlez d'un véritable coup de foudre et d'amour vraiment profond, d'une alchimie entre vous et cet homme, une alchimie parfaite entre vous qui vous a poussé donc à continuer cette histoire. Vous aviez l'impression qu'aucun autre homme ne pourrait vous apporter ce que cet homme vous apportait?
Oui, clairement. J'ai jamais pu retrouver en fait ce type d'alchimie avec une autre personne, parce que c'est vraiment à tous les niveaux, pas seulement, je veux dire, l'aspect physique qu'on peut penser être primordial dans une relation extra-conjugale, mais pour le coup, c'était pas la priorité. C'est-à-dire que juste pouvoir parler ensemble et pouvoir être ensemble nous suffisait à être heureux, en fait. Donc c'était pas seulement l'aspect physique.
Des affinités vraiment à tous les niveaux et dans tout domaine. Que vous entretenez avec cet homme, Émilie. Vous restez en ligne avec nous, nous allons continuer à parler de votre histoire et voir comment elle a évolué.
Europe 1. Pourquoi céder à une liaison clandestine? Quelle est votre histoire? On vous écoute au 39-21 cet après-midi. Vous pouvez aussi nous écrire et poser vos questions, vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Qu'est-ce qui pousse un homme ou une femme mariée ou engagée à s'abandonner dans les bras d'un ou d'une autre? Nous parlons de l'adultère. Vous composez le 39-21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Émilie qui nous expliquait dans la première partie de cette émission et bien avoir rencontré un homme et avoir d'abord vécu un coup de foudre amical avant que cette amitié se transforme à force de constater que beaucoup d'affinités les réunissaient, a fini par une histoire d'amour. Une histoire d'amour que la compagne officielle de cet homme a fini par découvrir. Émilie, vous vous êtes mis en retrait de cette histoire pour que cet homme ne se sépare pas de cette femme. Pendant 5 ans, vous ne vous êtes plus fréquenté, puis vous avez repris petit à petit votre liaison avant qu'elle ne s'arrête de nouveau. Vous dites que parfois, vous avez l'impression d'avoir gâché une partie de votre vie. C'est une situation qui vous a fait souffrir, visiblement.
Oui, totalement, puisqu'en fait, c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas pour objectif forcément de mettre un terme à leur relation, lui demander de quitter sa femme. Oui. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'est retrouvés plusieurs années plus tard, forcément, la force de l'âge fait que j'avais envie de plus, j'avais vraiment envie d'être avec lui au quotidien, et c'est vrai que c'était devenu beaucoup plus compliqué. Donc même si on partait en week-end ensemble ou qu'on se voyait assez régulièrement, il y a tout un sentiment de frustration qui s'installe parce qu'on a envie de partager tous ces moments avec cette personne et de partager plus que une relation quand il est disponible, quoi.
Alors, moi, il y a quand même une question qui me taraude, c'est que cet homme, au début, quand vous le rencontrez, il n'a pas d'enfant. Vous parlez d'alchimie, d'une totale alchimie entre vous, d'un homme qui est aussi amoureux de vous. Est-ce que la question de vivre ensemble et que vous deveniez sa compagne officielle s'est posée à un moment? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il est très pressé de donner à cette relation une apparence officielle, finalement.
Oui, après, c'est vrai que moi, de mon côté, je ne lui ai jamais mis la pression à ce niveau-là. Je parlais plus de qu'il me laisse une place dans sa vie et qu'on finisse à un moment donné par se mettre ensemble. Mais c'est vrai que je ne lui mettais pas la pression à ce niveau-là. Et lui disait qu'il n'était pas prêt, en fait. C'est
surtout il n'était pas prêt. Vous ne trouvez pas que c'est une position un peu facile qu'il adoptait? Je ne suis pas prêt. Parce que j'ai toujours du mal à comprendre comment en fait on peut mener deux existences comme ça parallèles, importantes, parce que vous parlez d'une relation qui aura presque duré 15 ans et que au bout du compte, vous avez beaucoup souffert et je ne peux pas imaginer autre chose que sa compagne, elle aussi officielle, la mère de ses enfants aujourd'hui, ait aussi souffert.
Oui, totalement. C'est aussi pour ça, du coup, que j'ai fini par mettre un terme, puisque j'ai tout ce sentiment de culpabilité vis-à-vis d'elle, puisque lui ne le ressent pas. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question de comment est-ce qu'il est arrivé, après qu'on ait passé des week-ends ensemble, à retourner auprès de sa femme et de ses enfants, et de faire comme si de rien n'était, ou même parfois d'être en train de discuter avec moi par texto ou message, alors qu'il était dans le lit avec elle. Enfin, oui. Plein de choses comme ça du quotidien, me dire mais comment il arrive à gérer, comment il arrive à faire avec. Et c'est vrai qu'après, ça fait naître un sentiment de culpabilité. Mmh. Et je me dis, vis-à-vis de sa compagne, moi, je ne peux pas continuer comme ça, en fait.
Alors, pensons à vous aussi, puisque, en fait, lorsqu'on est amoureuse aussi, c'est très compliqué de lutter contre des sentiments tels que ceux que vous éprouviez. Est-ce que lorsque cet homme qui, je dirais, lui, avait la vie facile, puisque en fait, il était avec vous et en même temps, il était avec sa femme. Et il a fait des enfants. Est-ce que à ce moment-là, ça ne vous a pas traversé de mettre un terme définitif à cette histoire, parce que là, il vous montrait qu'il s'engageait vraiment avec sa compagne officielle, vraiment de manière voilà, distincte.
Ça n'a pas joué, puisqu'à cette époque-là, je n'avais pas de désir de maternité de mon côté. Oui. Donc pour moi, c'était plutôt une chance pour lui d'être père, et c'est quelque chose dont il rêvait en quelque sorte. Donc pour moi, ce n'était pas vraiment un obstacle entre nous deux. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, non, ce n'est pas ça qui m'a fait me dire il est temps de t'éloigner. Pas forcément à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Mm-hmm.
Parce que vous n'aviez pas spécialement d'envie maternelle, comme vous le dites. Vos proches connaissent votre situation ?
Aujourd'hui, j'ai juste une amie très proche.
Et que vous conseillait-elle, cette amie très proche ? Est-ce qu'elle a été, elle vous a accompagné un petit peu dans vos doutes aussi ?
Ça a été difficile parce que par rapport à ce que je lui racontais de notre situation, elle comprenait que lui aussi était torturé. Enfin, elle imaginait qu'il était torturé parce que, comme elle me disait, on ne reste pas aussi longtemps avec une personne
si on n'a pas
une relation extra-conjugale, s'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas quelque chose. Mais qu'arrive un moment, il fallait que je pense à moi, en fait. Elle me disait qu'il fallait vraiment que je pense à moi et à me reconstruire et à passer à autre chose.
Vous avez espéré longtemps sortir de cette relation officieuse. Vous y êtes arrivé, mais je suppose en faisant de gros efforts, parce que quand il y a de l'amour, je me mets à votre place, ça devait être compliqué. Ouais. Par contre, vous dites ressentir énormément de frustration aujourd'hui. Qu'entendez-vous par là ?
Oui, la frustration, c'est surtout de me dire qu'il n'a pas fait l'effort, en fait, qu'il n'a pas été au bout des choses.
Ouais.
De me dire qu'en fait, on aurait pu avoir une histoire magnifique. Et du coup, c'est frustrant de se dire qu'il préfère rester dans sa relation qui est confortable, tout simplement, qui lui convient, plutôt que de donner une chance à ce qu'on ait une histoire réelle, quoi.
Mmh. Et avec le recul, avec toute cette frustration, cette culpabilité, est-ce que votre rapport aux hommes a changé aujourd'hui ? Parce que ça n'est pas rien, hein, 15 ans. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui capable d'entamer une nouvelle histoire ?
J'aimerais très sincèrement. Après, c'est vrai que du coup, niveau confiance, c'est pas évident, puisqu'ayant été de l'autre côté, c'est pas évident. Je me rends compte qu'on peut avoir une relation qu'on estime comme étant saine, avec enfants, maison, etc., et qu'au final, la personne me trompe. Donc c'est vrai que niveau confiance, je sais que j'aurais énormément de difficultés. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même...
Mais vous avez 36 ans. Vous avez 36 ans, Émilie. Donc vous avez la vie devant vous et vous verrez que la vie fait bien les choses, et surtout en amour, elle fait bien les choses. Elle nous fait souvent le cadeau de voir passer devant nous une ou deux personnes avec qui on peut, pourquoi pas, continuer le chemin très longtemps. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci pour votre témoignage cet après-midi au 39-21. Dans un instant, nous allons accueillir Marie-Carmen Garcia. Elle est sociologue, professeure à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Elle est auteure de l'ouvrage « Amour clandestine, sociologie de l'extra-conjugalité durable » qui est disponible aux presses universitaires de Lyon.
Europe 1.
Le témoignage d'Émilie a eu une résonance particulière dans votre histoire. Vous avez entretenu avec une femme, avec un homme, engagé ailleurs une relation. On vous écoute au 39-21. Peut-on rester toute sa vie avec la même personne et au-delà de ça, rester exclusif ? Pourquoi céder à la tentation de l'adultère ? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21, pour venir nous raconter votre histoire.
Et pour parler de cet adultère, nous sommes maintenant en ligne avec Marie-Carmen Garcia, sociologue, professeure à l'université Paul Sabatier de Toulouse et auteure de l'ouvrage « Amour clandestine, sociologie de l'extra-conjugalité durable » disponible aux presses universitaires de Lyon. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour.
Bonjour. Alors, ces infidélités, quels sont les principaux profils de ces infidèles ?
Alors, par rapport à l'entretien, au témoignage qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire une infidélité de très longue durée, hein, parce que là c'est 10 ans, c'est tendu sur 15 ans, les profils, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde, contrairement à ce qu'on imagine. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment le cœur de mon analyse. Il n'y a pas de disposition préalable ou d'histoire de famille ou de traits psychiques qui conduiraient les gens à ça. Finalement, c'est le couple lui-même, ce qu'il est aujourd'hui, le couple conjugal, qui conduirait à l'infidélité quand il ne conduit pas à la désunion. puisque la norme dominante, en réalité, ce sont ce qu'on appelle les unions successives. Donc, le divorce est relativement très dans les normes, hein, aujourd'hui. Tout le monde ne va pas de ce côté-là. Et certaines personnes, avec l'usure du couple, qui est un petit peu inexorable, oui, au risque de rompre un peu les illusions là-dessus, sur du très long terme, eh bien, parfois... se tourne vers d'autres personnes, mais sans jamais imaginer que ça va durer longtemps.
Mmh. Mais alors, que recherche-t-on, que recherche-t-on dans une relation adultérine, généralement ? Parce que on peut, vous venez d'évoquer un couple qui dure depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'on va chercher dans ce type de relation ? Est-ce qu'on va chercher justement à un peu faire sauter le couvercle de la cocotte minute et s'aérer ? Est-ce qu'on va chercher l'interdit ? Que va-t-on chercher ?
Alors probablement, dans ce que j'ai, voilà, toutes les analyses que j'ai menées, initialement, c'est effectivement, comme vous dites, faire sauter le couvercle, transgresser des interdits, revivre une deuxième jeunesse, les premiers émois, etc., etc., tout ce qu'on peut imaginer dans un amour qui s'initie, hein, les, oui, débuts de la relation amoureuse. Quand ça dure des années, c'est plus ça. Puisqu'une relation extra-conjugale, aussi cachée soit-elle, elle va elle-même engendrer un certain nombre de rituels, d'habitudes, aussi de disputes et de dissensions entre les amants. Donc ensuite, c'est plus tellement ça. Il y a une partie de ça. Alors, il y a la sexualité, quand même, qui est au centre de ces relations-là. Il n'y a pas, comme j'ai souvent, si il n'y a pas une sexualité... qui est souvent, la plupart, tout le temps, extrêmement érotisée, c'est de l'amitié, hein, après. Donc, la sexualité est quand même centrale, et c'est une sexualité qui diffère fondamentalement toujours de la sexualité conjugale, quand bien même il y a une sexualité conjugale parallèlement. Je pense notamment aux hommes sur cette question-là, puisque les hommes maintiennent des relations sexuelles avec au moins les deux femmes, entre guillemets, de leur vie, et parfois d'autres ponctuellement. Mais la relation sexuelle avec l'amante, elle a une dimension érotique, une puissance érotique qui est beaucoup plus importante. Et puis une complicité. Et la complicité, elle vient aussi du secret, c'est-à-dire partager ensemble un secret, ça crée une relation complice qui crée un petit univers à soi, un entre-soi, qui n'est pas toujours aussi pesant que ce que Émilie imaginait tout à l'heure que pouvait vivre l'homme qu'elle aimait, où elle disait « je ne sais pas comment il pouvait faire ». Eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça.
Ça n'est pas si évident que ça, oui.
Et notamment pour... Je dirais notamment pour les hommes, alors pas du tout pour des raisons biologiques ou psychologiques, mais parce que dans nos sociétés monogames, eh bien l'adultère masculin a toujours existé et il a même été encouragé jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, jusqu'aux années 60-70, quand le divorce est devenu des divorces pour consentement mutuel et qu'il y a une égalité des droits et que les femmes ont commencé à travailler. Mais sinon, l'adultère masculin, c'est une tradition, hein, ça se transmettait même de père en fils.
Alors, Marie-Carmen Garcia, on parle donc de l'importance, hein, de l'érotisme, du sexe dans ces relations d'adultère. Mais justement, ces relations extra-conjugales sont-elles incompatibles avec le sentiment amoureux ?
Entre amants, vous voulez dire, ou avec les conjoints ?
Non, avec votre conjointe officielle, en fait. Celui qui trompe, oui, finalement, peut-il continuer à aimer sa femme ou son,
oui,
homme, hein,
oui, oui, oui. L'aimer, ne pas l'aimer, on a tous les cas de figure. Après, la notion d'amour, ben, comme la plupart des gens au bout d'un certain temps le comprennent, hein, avec l'âge venant, sans être sociologue ou psychologue, elle peut évoluer. C'est-à-dire que l'amour qu'on peut porter à son mari ou sa femme, le père ou la mère de ses enfants, il s'enracine dans une histoire, dans une histoire de famille, etc. Et l'amour érotique est d'un autre ordre.
Mmh. Est-ce que
les deux peuvent tout à fait coexister.
Moi, je me pose une question qui me paraît fondamentale, qui porte sur le bonheur à vivre une relation extra-conjugale, qui, pour moi, me paraît extrêmement fatigante et compliquée. Est-ce qu'on peut vraiment être heureux lorsqu'on est illégitime dans sa relation avec sa femme ou son compagnon officiel et puis avec l'autre ?
Ah, c'est une excellente question. excellente question. C'est une question que je me suis posée pendant très très longtemps parce qu'en fait, les gens sont rarement heureux. Voilà, sur 20 ans. Moi, j'ai regardé du côté de la relation extra-conjugale, mais les gens sont aussi rarement heureux quand ils n'ont pas d'amant ou de maîtresse aussi, hein, si on regarde.
Oui,
c'est
oui.
pas forcément le confort qui fait le bonheur. Alors, cette notion de bonheur est compliquée, mais je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce qui, quand même, quels étaient les ressorts? Parce que bon, quand même, par moments, c'est très très douloureux. Hein.
Oui, oui.
Et j'en suis arrivée à la conclusion que c'est le fait de vivre une histoire au sens plein du terme, avec ses rebondissements, des enjeux, des ruptures, des réconciliations, des choses qu'on ne peut pas, qui ne sont pas déterminées à l'avance, hein, qui font le moteur pour certains hommes, pour les hommes et les femmes engagés dans ces histoires-là. Même une histoire douloureuse est une histoire quand même, alors que, comme dit un philosophe sur l'amour, l'amour conjugal, c'est quand même un peu le plat pays, alors qui peut être très confortable et très heureux, hein, sans doute, mais dans lequel on n'a pas ce sentiment. Alors, mes interviennes disent toujours un sentiment d'exister.
Mmh.
Alors, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, dans toutes les situations, mais dans ces situations-là, c'est pas tant la quête du bonheur que la quête de vivre une expérience considérée hors du commun.
Hors voilà. du commun.
Ou l'idée que c'est un amour exceptionnel, là je l'ai entendu tout à l'heure, elle est récurrente. Hein.
Mm-hmm. Un amour hors du commun qui, visiblement, à travers vos éclairages, Marie-Carmen Garcia, redonne un peu de piment, hein, comme on dit souvent dans le jargon, du piment dans sa vie. Vous restez avec nous, hein. Dans un instant, nous allons accueillir Laurence. Après le décès de son mari, elle a découvert qu'il avait eu de nombreuses liaisons et on va voir comment elle a vécu cela.
Europe 1.
Que cherche-t-on dans une relation extra-conjugale ? On vous écoute au 39-21, vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous parlons de l'adultère. Comment expliquer qu'on puisse tromper son partenaire ? Pourquoi avez-vous craqué pour une personne déjà engagée ? Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1 au 39-21.
Et nous accueillons Laurence sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Laurence, soyez la bienvenue.
Bonjour Olivier, merci.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Laurence ?
Alors, 55 ans depuis hier et je vous appelle depuis les Vosges.
Bah avec un petit peu de retard, bon anniversaire Laurence.
Oh merci, c'est gentil.
Laurence, vous avez vécu 20 ans avec un homme aujourd'hui décédé. Après son décès, vous avez appris qu'il avait entretenu de nombreuses relations extra-conjugales. Vous doutiez de sa fidélité déjà. Est-ce que vous avez décelé des comportements étranges de sa part ?
Honnêtement, je vais vous dire, pendant 15 ans, pas du tout.
Oui.
Pas du tout. C'est un homme qui était parfaitement ponctuel quand il quittait le travail, même s'il était à 800 km, à une heure près, je savais quand il rentrait. Pas du tout. J'ai eu des doutes vraiment les tout derniers temps quand ça n'allait plus. Et puis, j'ai appris énormément de choses depuis son décès.
Que faisait-il comme métier qui lui permettait de partir toute la journée ?
Il était électricien haute tension et donc il faisait du déplacement. Pas la journée, la semaine.
La semaine, oui, oui. Il était en déplacement, donc ce que je veux dire, c'est que ça lui permettait quand même d'avoir un temps pour pouvoir avoir ce type de relation.
Complètement, mm-hmm. complètement.
Avant son décès, vous aviez découvert une relation cachée, hein, il me semble. Expliquez-moi comment et ce qu'il s'est passé.
Les derniers temps, j'ai donc été pendant 20 ans une mère au foyer,
oui.
avec deux enfants, donc complètement dépendante, hein, financièrement. Mm-hmm. Et donc, les derniers temps, quand le couple n'allait plus, il m'a une première fois coupé les vivres.
Oui.
Donc, vous réagissez parce que vous avez deux enfants. Donc, c'est le déclic qui fait que depuis quelque temps, vous vous dites un jour, je partirai. Mais voilà, la peur de l'inconnu.
C'est compliqué en plus. De nombreuses femmes vivent votre situation encore aujourd'hui parce qu'à la demande de leur mari, elles restent, elles élèvent leurs enfants. Et puis c'est un bon moyen de pression. Hein.
Ben voilà, tout à fait. En plus, on vous fait du lavage de cerveau, on vous dit « Mais ma pauvre, regarde autour de toi, toutes les femmes travaillent. Tu dors pas parce que t'es pas fatiguée, parce que tu ne travailles pas. Tu n'as pas besoin de manger puisque tu travailles pas. » Enfin, ça n'était que ça, évidemment.
Oui, ouais. Une culpabilité, en fait.
Complètement. Et si vous voulez, en plus, ce qui est très grave, c'est que quand il part la semaine, vous repensez, vous ressassez tout ça, et forcément, à un moment ou un autre, vous vous dites, bah oui, il a raison.
Oui.
Autour de chez moi, oui, tout le monde travaille, etc. Donc, il arrive à vous persuader que bah, vous n'êtes rien, quoi, en fait. Mm-hmm. Hein.
Alors, on évoque souvent hein, ce type de comportement. D'ailleurs, c'est très à la mode de parler de pervers narcissique. Et c'est un moyen de rabaisser l'autre et puis d'avoir un contrôle sur lui. Vous dites que pendant plusieurs années, de nombreuses personnes autour de vous ont vu les agissements de votre mari et personne ne vous a rien dit. Comment vous expliquez ça ?
On m'a alerté. Alors certaines personnes, des amis que je connais et que je côtoie encore, m'ont dit des choses après parce que m'ont dit, écoute, voilà, nous, c'est délicat d'aller le dire. Oui. Et très sincèrement, je pense que si demain je voyais le mari d'une amie avec une autre femme, je ne suis pas certaine que je courrais le dire à mon ami.
Oui, c'est délicat. C'est délicat.
Voilà, c'est fracasser une famille, etc. Mais j'ai deux, trois personnes qui m'avaient dit certaines choses et je n'ai pas voulu y croire. Non pas parce que j'étais folle amoureuse, mais parce que, si vous voulez, les critères de beauté des personnes en question ne correspondaient pas à ce qu'ils disaient. Je me disais, s'ils me trompent, c'est pas avec quelqu'un comme ça.
Est-ce que vous pensez que, finalement, vous saviez inconsciemment, ou alors pensez-vous ne pas avoir voulu voir les signaux, comme si vous étiez dans une sorte de déni ?
Je pense pas que j'étais dans le déni. Je pense qu'il était très fort pour ne pas montrer son yin et son yang. Hein. Mmh. Il montrait un homme et je pense que sa face cachée était très très cachée et que je ne pense pas avoir été naïve. On m'a dit après, t'étais naïve. Je pense pas, je me suis pas bercée d'illusions non plus. Mais en plus, de toute façon, avec un homme parti à la semaine, comment voulez-vous voir et savoir, quoi ?
Oui, c'est compliqué. Quel sens avaient ces liaisons pour lui, à votre avis ? Et que ressentez-vous à l'égard des femmes avec qui il vous a trompé ?
Écoutez, à l'égard de ces femmes-là, je ne ressens rien du tout, ni haine, ni compassion. Ce sont des femmes dont il s'est servi comme de moi. Donc, oui. Finalement, comme moi, je suis... Pauvre fille et les pauvres filles, et voilà. Si vous voulez, c'était un marché pour lui, et plus de conquêtes il y avait, mieux il se portait, et son égo aussi, je pense que c'est ça.
Parce que cet homme était très séducteur, hein, à la base, finalement, apprendre ses relations plusieurs années après, ça peut remettre en question toute votre histoire, hein, Laurence, avec cet homme. Comment est-ce qu'on continue de se construire lorsqu'on apprend que ce mari décédé vous a trompé à de multiples reprises et pendant longtemps ?
Eh bien, moi, étant donné que je l'ai appris et que l'histoire était terminée, si vous voulez, ça ne m'a pas fait le mal que ça aurait pu me faire si j'avais encore été amoureuse, ce qui n'était plus le cas. Mmh. C'est sûr que tout se rajoute au reste. Par contre, moi, je continue à avancer parce que les 20 ans passés avec lui, malgré tout ce que je sais aujourd'hui, je ne peux pas les regretter parce que j'ai deux magnifiques filles. Donc, et rien que pour ça, les 20 ans, je ne les renie pas. Mes filles sont là et j'avance grâce et par mes filles.
Mmh, j'allais vous dire que les deux cadeaux, même s'il y a eu de nombreuses tromperies, voilà, les deux cadeaux sont aujourd'hui devant vos yeux. Deux filles qui poussent, qui vous font avancer. Et puis j'ai envie de vous dire, hein, Laurence, n'oubliez pas, vous avez 55 ans et voilà, vous avez encore de nombreuses années. Et puis surtout, la possibilité demain de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est l'avenir qui vous le dira. En tout cas, merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, au revoir.
Merci encore Marie, et dans quelques instants nous allons accueillir Marie qui elle a vécu aussi une relation extra-conjugale. Elle est en couple avec le même homme depuis 17 ans, mais elle va nous dire qu'il n'y a jamais eu de passion entre eux.
Europe 1. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà retrouvé dans un triangle amoureux ? Vous avez entretenu une liaison ? Vous avez découvert que votre conjoint avait une liaison extra-conjugale ? Qu'avez-vous ressenti ? Venez nous raconter votre histoire au 39-21. Partager son lit conjugal avec un autre, une autre, qu'est-ce qui vous a mené à être infidèle ? Il ou elle était engagé, pourtant vous avez continué d'entretenir cette liaison avec une vie dans la clandestinité. Vous nous racontez au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant avec Marie au 39-21. Bonjour, soyez la bienvenue. Marie.
Merci à vous. Bonjour.
Quel âge avez-vous, Marie ?
J'ai 44 ans.
44 ans. Alors, vous êtes en couple avec le même homme depuis 17 ans, mais vous dites qu'il n'y a jamais eu de passion entre vous. Expliquez-moi ça.
Mais en fait, au départ, ce n'était pas une relation de séduction ni passionnelle.
Oui.
Et ça ne l'a jamais été. Donc, tout se déroulait un peu comme au fil des jours, au jour le jour, voilà, sans penser trop au lendemain.
D'accord. Qu'est-ce qui faisait qu'on ne pensait pas trop au lendemain ? Est-ce que, parce que vous avez l'air de décrire une, une relation avec peu de piment finalement, quelque chose qui s'est installé ça. Comme ça, et puis on continue sans se dire que demain on a envie de passer à autre chose.
C'est ça, sans se poser trop de questions, c'est une relation assez, en fait, apaisante par rapport à ce que j'ai connu juste avant.
Oui. Vous aviez connu quoi avant? Vous aviez connu
alors,
quoi avant?
Alors, une passion.
Oui. Qui passion, s'était mal finie
Oui.
D'accord.
Ouais, ouais.
C'est pour ça que donc, cette relation, oui. en fait, vous convenait parce que enfin, vous aviez quelque oui. chose de voilà de calme. Au début
oui,
de
je pense que c'était un pansement.
Oui, c'était un pansement. D'accord. Ok. C'est bien, c'est joli l'image du pansement. Au début
ouais,
de cette.
Oui, c'est joli, mais bon, c'est pas très, voilà.
Non. Non. Non, mais je dis ça parce que je trouve que c'est plutôt voilà donner une belle image plutôt que voilà autre chose. Au début de votre relation. Vous avez eu une brève aventure avec un homme marié, hein, il me semble. Il y avait des sentiments entre cet homme marié et vous ?
Non.
Aucun.
Non.
Et pourquoi, non. Pourquoi avoir eu cette relation alors ?
Purement physique.
D'accord. Comme, comme l'évoquait tout à l'heure Marie-Carmen Garcia, donc ça n'était que physique et sexuel peut-être ?
Complètement, ouais, ouais, complètement. Et puis, c'est passé que deux fois. Et le fait qu'on connaissait aussi... en fait, on connaissait ce couple-là. On était des amis.
D'accord.
Donc, je ne dis pas que c'était dangereux, mais ça n'avait pas d'intérêt. Enfin, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, quoi.
D'accord. Donc, je suppose que comme c'était un couple d'amis, vous n'avez jamais songé à en parler à votre mari et lui, de l'autre côté, jamais à sa femme.
Non.
Vous vous voyez toujours aujourd'hui ?
Alors non, parce que ce sont des amis qui habitent très très loin et on s'est vu après pendant longtemps et puis il n'y avait rien de... Enfin,
c'était
arrêté quoi. Là. Oui, oui, c'était terminé. Quoi. Et puis je pense qu'à l'époque, je devais un petit peu culpabiliser. Aussi.
Alors, il y a quelques semaines, vous avez rencontré un autre homme sur votre lieu de travail. Vous dites que vous vous êtes senti tout à coup exister en constatant son attirance pour vous, ses regards, ses attentions. Expliquez-moi ce que vous avez ressenti.
J'ai l'impression que quelque chose s'était endormi en moi
oui.
et qu'il a révélé en me mettant en valeur, en me montrant que j'existais, quoi.
Mmh.
Enfin, que j'étais séduisante.
Mmh. Est-ce que vous ressentez une certaine culpabilité par rapport à cette nouvelle relation extra-conjugale ? Est-ce que vous envisagez une suite dans cette relation ?
Non, je n'ai pas de culpabilité vis-à-vis de mon conjoint actuel.
Oui, oui, oui. Oui.
Non. Mmh. Non, pas de culpabilité du tout.
Et vous n'envisagez, vous envisagez de faire quoi alors de cette relation ?
Rien.
Bon.
Je vais rien en faire.
Bon, bah, comme ça, c'est clair.
je vais rien en faire parce que j'estime en fait deux choses, c'est que bon, déjà, on va déménager loin, enfin,
oui.
dans le sud de la France, donc il peut pas se passer grand chose pendant l'éloignement. Il peut pas se passer grand chose quand on est loin, à part virtuellement.
Mm-hmm.
Lui, j'ai pas l'impression, enfin comme. Comme l'autre a une culpabilité vis-à-vis de sa femme, je pense qu'il ne veut pas entretenir une relation virtuelle, parce que la relation virtuelle, c'est une autre étape. Je pense que c'est une étape en plus que la relation physique. Donc, et puis, l'avenir nous le dira. Je suis assez... je laisse faire le temps, dans le sens où si je suis amenée un jour à revenir en région parisienne, et comme... C'est quelqu'un qui travaille dans le même milieu que moi. Si on est amené de nouveau à se rencontrer et que ça se repasse de nouveau et que les choses ont évolué dans sa tête, dans son couple, et moi, de mon côté, dans ma tête et dans mon couple, il se peut que ça reprenne. Mais pour le moment, je ne peux pas laisser tomber mes projets, surtout que je reprends mes études.
Oui.
Je vais avoir un nouveau travail. Je ne peux pas me permettre, et lui, à mon avis, c'est pareil, je ne peux pas me permettre de foutre en l'air une vie de famille, une vie...
oui, en tout cas,
ma vie
on
globale
sent,
ouais. pour un truc, on ne sait pas qui mène à quoi, quoi. Mm-hmm. Et puis il faut recommencer.
On sent en tout cas, on sent en tout cas Marie que voilà que cette relation pour l'instant, elle n'a pas trop d'importance pour vous. Même si on entend que quelque part, si vous vous croisez dans quelques dans quelques mois à Paris, elle pourrait prendre une autre tournure, mais que vous êtes plutôt dans une analyse de ce qui vous arrive au jour le jour, et ça n'est pas plus mal, hein, puisque tout le monde a l'air d'avoir des projets, votre amant de son côté, puis vous du vôtre. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas très bon courage pour cette reprise de vos études, et puis de ce à quoi ça aboutira. Et je vous remercie surtout d'avoir pris de votre temps pour témoigner cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous allons conclure cette émission avec Paul, qui a entretenu une relation extra-conjugale avec une femme qui habitait à l'étranger. Cette relation a duré 16 ans et aujourd'hui, il a rompu et il est toujours avec sa femme.
Et le témoignage de Sabrina, 37 ans au 39-21, j'ai été la maîtresse d'un homme marié pendant 4 ans. Je suis tombée enceinte de lui, il a quitté sa femme pour vivre avec moi. Cela fait désormais 15 ans que nous sommes en couple et nous avons aujourd'hui 3 enfants.
Europe 1.
Pour quelles raisons vous vous êtes lancé dans une aventure extra-conjugale ? Vous en parlez cet après-midi au 39-21 avec Olivier Delacroix. Nous parlons de l'adultère. Pourquoi céder à une liaison dangereuse ? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant avec Paul que nous accueillons sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Paul.
Bonjour à vous.
Bonjour, quel âge avez-vous Paul ?
68 ans.
68 ans. Alors Paul, il y a quelques années déjà, vous avez entretenu une liaison avec une femme qui vivait, elle, à l'étranger. Votre travail vous menant, visiblement en tout cas, à l'étranger. Cette liaison a duré 16 ans. Comment est-ce que vous la regardez, cette liaison ? Parce qu'elle a été, on peut parler de double vie ou pas ? Parce que est-ce que vous voyez souvent cette femme ? Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir deux existences, un dédoublement et finalement mener deux vies parallèles ?
Oui, c'est un peu ça en fait. Alors pour répondre aux différentes questions, effectivement, cette femme, je l'avais connue à l'étranger où j'étais pendant des années tout seul.
Oui.
Ma famille étant à l'époque en France, en parlant de la France.
Oui.
Et puis moi j'étais, la famille avait dû rentrer en fait pour l'école des enfants. Et puis j'étais tombé amoureux de cette femme. Mm-hmm. Au bout d'un an de vie quasiment tout seul, effectivement, à l'étranger. Et puis, c'était devenu un amour fusionnel.
Un amour fusionnel qui a duré 16 ans. Vous l'avez quitté dans quelles circonstances ?
Eh bien, on s'est quitté par la force des choses, puisque je suis rentré avec ma famille pour me joindre avec la famille. J'ai changé de travail aussi.
D'accord.
Et puis, on a continué à se voir avec cette femme à cause de mes voyages à l'étranger, mais c'était des visites très courtes et des vies de, disons, de deux jours, tous les deux mois, oui. Quelque chose de comme ça.
Donc,
mais
ça
chaque fois, c'était le même plaisir et ça a duré pendant une bonne douzaine d'années. Une douzaine d'années. Et puis après, j'ai changé un corps parce que je suis passé à la retraite.
Oui.
Et donc, c'était impossible de se voir. Et
bah
par
oui,
la force
oui.
des choses, donc, les choses se sont estompées toutes seules.
Mmh. Marie-Carmen Garcia, lorsque l'on écoute le témoignage de Paul, nous vient la question, à Ombline et à moi. Est-ce que tromper, avoir une relation extra-conjugale, et puis je pense aussi au témoignage de Marie, qui était aussi dans une quête aussi de piment pour sa vie. Est-ce que tromper, est-ce forcément un signe d'une insatisfaction dans son couple ?
Non, je ne crois pas. Le couple, on culpabilise souvent le couple en disant il dysfonctionne. Alors, à partir de quel moment un couple est dysfonctionnel, ça pose déjà un certain nombre de questions. Et tous les couples qui, entre guillemets, dysfonctionnent ne conduisent pas à l'adultère. Et parfois, moi j'ai eu des interviewés qui se disent, alors, surtout les hommes, qui se disent heureux dans leur couple, après ce qu'ils mettent dedans. Donc, c'est pas... À mon sens, le ressort, justement, on rattache trop l'adultère. Alors, Marie était dans une situation un peu particulière parce que c'est une relation très épisodique.
Oui.
Mais
on
comme
pas au début,
Paul,
hein.
par exemple, oui. où le premier témoignage, ces relations sont longues,
oui.
C'est plutôt le développement d'une autre relation qui est une quasi-union. Alors, je dis bien quasi parce qu'en fait, on n'a pas de double vie, dans le sens où il y a une vie officielle qui intègre tout un tas de choses, une vie sociale, etc. Et une, je dirais, une sous-vie, une petite vie érotique et émotionnelle dans lesquelles les individus, des personnes expriment souvent une autre partie d'eux-mêmes. Ça, c'est, voilà, c'est une des analyses de la sociologie là-dessus, une partie d'eux-mêmes qui peut s'exprimer là parce que justement, il y a moins de contraintes que dans la vie de couple instituée avec toutes les contraintes au quotidien, etc., etc. Donc, c'est pas forcément un dysfonctionnement du couple, ça peut être une usure du couple qui est normale avec le temps, je dirais, hein, tout s'use, même le couple, même l'amour.
Oui.
Mais ça peut être aussi, on a affaire à des couples qui vont bien, enfin ce qu'on appelle aller bien un couple, et quand même on a des gens qui entrent dans une relation extra-conjugale, sachant que dans tous les cas, ils ne pensent pas que ça va durer. En fait, ça leur tombe. Pour certains vont dire que ça leur tombe dessus. Avec les nouveaux moyens internet, il y en a qui cherchent un petit peu l'aventure, mais sans jamais imaginer qu'ils vont rentrer dans des années de relation avec une personne qui va devenir une personne importante dans leur vie.
En tout cas, Marie-Carmen Gassien, on entend à l'écoute de l'histoire de Paul qu'on a plus l'impression que dans les piments, hein, que cela rajoute à notre vie, en tout cas aux vies de ceux qui décident de se lancer dans une relation extra-conjugale, on peut voir que le piment, là, que lui a provoqué cette histoire, a contribué à rester avec sa femme et que, voilà, 17 ans après, il a décidé de rester. Merci à vous, Marie-Carmen Garcia, sociologue, professeure à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Amour clandestine, sociologie de l'extra-conjugalité durable, disponible aux presses universitaires de Lyon. Merci pour vos éclairages. Merci aussi à Paul, merci à Émilie, à Laurence et à Marie d'avoir participé à cette émission cet après-midi. Alors que ce soit l'histoire d'une nuit ou d'une vie, l'adultère révèle toujours quelque chose du couple, que ce soit l'officiel ou l'officieux. Mais tromper, est-ce ne plus aimer? On vient d'avoir la réponse. L'adultère est-il forcément le signe d'une insatisfaction? Sûrement, mais on a vu que ça pouvait encore durer longtemps pour certains couples. C'est bien souvent le secret, les non-dits et les mensonges qui finalement génèrent de la souffrance lorsqu'ils sont découverts. Le triangle amoureux peut être dangereux. Prenez le temps de la réflexion et surtout du dialogue afin de respecter les sentiments et les attentes de chacun. Et surtout, ne pensez jamais à la place de l'autre, mais faites place justement à le plus de vérité possible, car c'est dans la communication que les choses avancent. Vous pouvez continuer, bien évidemment, à en discuter sur les réseaux sociaux.
Oui, vous échangez entre vous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram Olivier Delacroix officiel. Et puis si vous le souhaitez, n'hésitez pas également à vous confier le soir la libre antenne d'Europe 1. Sophie Peters vous attend dès 22h30 et jusqu'à 1h du matin.
Europe 1.
Demain, à l'occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques, nous parlerons ensemble de cette maladie. Comment vivre avec? Alors si vous souffrez depuis longtemps ou depuis peu de cette maladie, si l'un de vos proches en est atteint, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Et Ombline et moi, nous serons là pour vous écouter.